Douance, surdoué, zèbre, haut potentiel. Vous avez déjà certainement entendu ces termes. Je suis Lucie Rondelet et dans ce nouvel épisode, je vais vous parler de manipulation sur le web, d'inbound marketing, de copywriting mal utilisé et de l'effet Barnum. Le web devrait être le monde de l'authenticité. Un monde idéal où les entreprises rencontreraient des clients qui leur ressemblent. Grâce à l'inbound marketing, les entreprises communiqueraient de façon unique sur leur blog, leurs réseaux sociaux, etc. Et elles trouveraient ainsi des prospects qui apprécient leurs valeurs et leur univers. La bonne nouvelle, c'est que cela arrive très souvent. Vous vous intéressez à un entrepreneur parce que vous aimez ce qu'il fait, vous vous reconnaissez dans sa personnalité ou que, pour une raison qui vous échappe, vous avez eu un coup de cœur. La mauvaise nouvelle, c'est que certains entrepreneurs ne respectent pas les règles du jeu de l'authenticité et de l'éthique sur le web. Leur seul objectif est de faire de l'argent, et donc de toucher l'audience la plus vaste possible. Pour cela, ils sont prêts à recourir à tous les moyens, en particulier au niveau de leur communication. C'est ainsi que vous découvrez des textes soi-disant copyrightés, des pages de vente très agressives qui promettent monts et merveilles aux prospects. Comment ? En manipulant les personnes crédules, celles qu'ils considèrent comme faibles. Et que considèrent-ils comme de la faiblesse ? Eh bien, le manque de confiance en soi, la sensation d'insécurité, la marginalité, l'hypersensibilité, le mal-être, le manque d'argent, le doute, la peur d'échouer, une faible estime de soi, etc. Pour convaincre un prospect qu'une formation ou un coaching est fait pour lui, l'une des techniques les plus souvent utilisées est celle de l'effet Barnum. L'effet Barnum est défini par Wikipédia comme un biais cognitif induisant toute personne à accepter une vague description de la personnalité comme s'appliquant spécifiquement à elle-même. Autrement dit, lorsque la description d'un type de personnalité est rédigée d'une façon assez vague, la plupart des gens ont tendance à s'y identifier. Ce biais tient son nom de Phineas Barnum, un célèbre forain et mystificateur du XIXe siècle. Il est aussi appelé l'effet Fowler, du nom du psychologue ayant réalisé la première étude sur la question. Il avait rassemblé différents horoscopes pour créer une description de quelques lignes qu'il avait remise à ses étudiants. Il leur avait demandé de noter la pertinence de cette description et elle avait obtenu une note de 4,26 sur 5. C'est énorme vu qu'il s'agissait de phrases piochées au hasard dans des horoscopes. L'étude a ensuite été affinée par d'autres scientifiques qui ont révélé que l'effet Barnum était plus fort lorsque la description était avantageuse. Autrement dit, vous tombez plus facilement dans le panneau si on vous décrit comme une personne douée d'une intelligence hors du commun que si on vous décrit comme une personne d'une stupidité confondante. L'autorité de la personne qui effectue la description joue aussi un rôle. Vous aurez quelques réserves face à l'analyse psychologique réalisée par Madame Irma, mais vous accepterez celle qui vient d'un médecin ou d'une figure de l'autorité. L'effet Barnum permet d'attirer un prospect en lui expliquant que le produit est fait pour sa personnalité ou son profil. Cet effet, ainsi que d'autres biais cognitifs dont nous allons parler, est notamment utilisé dans l'univers de la douance. L'année dernière, interpellé par le nombre de personnes qui se proclamaient surdouées, au potentiel, zèbres ou encore victimes de douance, je n'ai pu m'empêcher de mener ma petite enquête, et ce que j'ai découvert était stupéfiant. Ce phénomène a pris naissance vers 2011, lorsque l'un des premiers livres de vulgarisation scientifique y a été consacré. L'auteur, une psychologue clinicienne, a depuis rédigé beaucoup d'autres ouvrages, toujours dans un effort de vulgarisation. Et c'est probablement l'origine du problème, car depuis, la thématique de la douance n'est plus réservée aux médecins. Elle est reprise par de nombreux entrepreneurs du web qui y trouvent une source de business particulièrement lucratif. L'idée est de faire passer des tests à des gens comme vous et moi, puis de leur laisser croire qu'ils souffrent de leur douance. Ils seraient plus intelligents que les autres et cela poserait des problèmes sérieux dans leur vie. Des centaines de vidéos sur YouTube abordent ce sujet. Bien sûr, on vous précise qu'il ne faut pas se fier aux études cliniques, notamment aux vrais tests de QI, has-been bien évidemment, qui ne prennent pas en compte la dimension émotionnelle des personnes trop intelligentes. Ce critère leur permet de se détacher des réalités concrètes et de toucher légitimement un nouveau public. L'idée est astucieuse et très juteuse financièrement, mais incroyablement malhonnête. Ils ont réussi à trouver le profil type de la personne qui se pose des questions et sera prête à débourser plusieurs centaines d'euros pour se sentir mieux. Le profil de la personne éduquée, curieuse et sensible qui cherchera sans cesse à s'améliorer. Pire, cela touche aussi des adolescents. Mais pourquoi je vous parle de tout ça maintenant ? Parce que ces personnes qui surfent sur la vague du concept de douance appliquent de nombreux biais cognitifs utilisés par les copywriters peu scrupuleux. Et c'est ça qui nous intéresse. La mystification repose d'abord sur un argument d'autorité. Car ces entrepreneurs non formés précisent toujours que leurs tests, coaching et formations se basent sur les travaux de la psychologue clinicienne ayant lancé la tendance de la douance. Cet argument est bien entendu très efficace pour convaincre un prospect. Mais il est fallacieux, l'objet d'un livre de vulgarisation scientifique est d'informer un large public, pas de transformer n'importe qui en apprenti médecin. Imaginez qu'un neurochirurgien sorte un livre de vulgarisation sur son activité et que certaines personnes se proclament expertes après l'avoir lu. Voudriez-vous vraiment vous faire opérer par une personne sans diplôme qui vous garantit qu'elle suit les principes appris dans le livre ? J'établis une comparaison avec la médecine parce que la douance touche à la santé mentale des personnes. Ce n'est pas différent. Le mal-être, ressenti par un soi-disant haut potentiel, peut être un début de dépression qui sera dissimulé par un faux diagnostic de douance. C'est donc très grave. Un autre biais à l'œuvre est le biais de confirmation, qui consiste à chercher des sources qui confirment notre propre opinion. On voit dans les commentaires sous les vidéos consacrées au HP qu'une partie importante des internautes cherchait à confirmer leur impression d'être HP. C'est le biais de confirmation. Ils n'auraient pas facilement accepté une information différente. Une autre de leurs manipulations consiste à remettre en cause les tests traditionnels. Vous vous doutez que la douance est un phénomène difficile à diagnostiquer. L'un des critères pour la distinguer d'un autre état de mal-être est le test de QI. Historiquement, les psychologues estimaient qu'une personne ayant un QI supérieur à 130 pouvait être haut potentiel. En raison des marges d'erreur et d'autres facteurs, ce chiffre est remis en cause et varie d'un pays à l'autre. Le chiffre a donc moins d'importance, mais le QI reste un facteur déterminant pour évaluer la douance. Il est pourtant décrié par certains gourous. Notre cerveau étant paresseux, il ne cherche pas plus loin et prend cette conclusion comme véridique, sans faire davantage de recherches sur l'importance du QI. Le biais social est aussi allègrement exploité par la mode de la douance. L'être humain est grégaire, mais la vie fait que parfois, on se sent seul, en marge. Ce sentiment d'isolement touchant les humains est attribué à la douance. C'est alors que les charlatans présentent leur formation et coaching comme un moyen de briser l'isolement. En effet, pour beaucoup de personnes, être diagnostiqué HP ou zèbre est un soulagement, parce qu'elles ont l'impression de rejoindre une communauté de gens qui, en théorie, leur ressemblent. Par exemple, sur un site assez connu consacré à cette tendance, il est clairement indiqué « partage avec d'autres HP ». Pour pouvoir effectivement échanger avec ces personnes, il faut rejoindre un groupe Facebook qui n'est évidemment accessible qu'aux personnes ayant acheté la formation. Le dernier biais et le plus exploité est l'effet Barnum. En proposant une définition très large et avantageuse de la douance, ces personnes ratissent large, ce qui leur permet de faire passer des tests payants à de nombreuses personnes. Ils proposent d'abord un test gratuit qui attirent un large public dans leur filet, puis font payer les plus motivés pour confirmer la douance. J'ignore la qualité des tests payants, mais si la personne est étiquetée au potentiel, elle se voit ensuite proposer un éventail de formations et coaching à plusieurs centaines d'euros. Je vous propose de voir en détail comment l'effet Barnum est exploité. Voici une description des adultes à haut potentiel trouvés sur un site dédié aux zèbres. Il est dit « Voici les 10 signes qui montrent que vous pourriez être surdoué, zèbre, HP. Attention, ce ne sont pas des critères diagnostiques, juste des indices de la présence du haut potentiel. D'ailleurs, chaque personne surdouée est unique et rares sont celles qui possèdent toutes ces caractéristiques en même temps. » Ici, l'introduction nous prévient. Attention, rares sont ceux qui ont toutes les caractéristiques. Donc on doit conclure, si je m'y retrouve, c'est que je suis sans doute haut potentiel. Mais regardons de plus près. On peut lire « La multitude des connexions neuronales des personnes surdouées se traduit par une pensée en arborescence. C'est une pensée foisonnante, une idée en entraînant une autre, puis encore une autre, et encore une autre. Cette forme de pensée neuro-atypique est particulièrement créative. » En commentaire, je dirais que qui aujourd'hui n'a pas plusieurs idées qui viennent en même temps ? Personne ! C'est d'ailleurs le principe même de la méditation, qui est d'essayer de se concentrer sur le vide. Et très peu de gens y arrivent. Le problème ici n'est pas de parler de pensée arborescente, mais plutôt de simplifier le concept à l'extrême, de manière à ce que chaque lecteur puisse se reconnaître et donc croire que penser à beaucoup de choses est un signe d'intelligence suprême. L'empathie. On vous dit, souvent, les personnes surdouées arrivent à savoir ce que d'autres personnes ressentent ce qu'elles ressentent et agissent en fonction. Elles sont souvent très empathiques. En réalité, très peu de gens ne sont pas empathiques. Lorsqu'un ami, un collègue ou un proche ne va pas bien, notre instinct d'être humain empathique s'active dans la majorité des cas. On vous parle du sens de la justice, en vous disant « Il y a fréquemment, chez les personnes à haut potentiel, une sensibilité particulière aux injustices. » Et là, je me dis que cette phrase peut s'appliquer à n'importe qui. J'aurais du mal à croire que vous, auditeur, n'avez pas une sensibilité particulière à l'injustice. Tout le monde, encore une fois, peut donc se retrouver dans cette phrase. Je continue avec le perfectionnisme. On vous dit, nombreux sont les surdoués qui, dans au moins un domaine de leur vie, cherchent à faire les choses de façon parfaite. Leur perfectionnisme va de pair avec une difficulté à accepter et à assumer les échecs. Ce qui est gênant ici, c'est qu'on vous dit que les surdoués sont perfectionnistes. Mais rapidement, et au cas où vous ne seriez pas perfectionniste, on vous rassure, vous l'êtes, puisque vous avez des difficultés face à l'échec. Vous avez des difficultés à l'accepter et à l'assumer. Encore une fois, tout le monde s'y retrouve. Je vous épargne les autres indices censés prouver notre douance. La conclusion du site est la suivante. Vous vous êtes retrouvé dans ces signes ? Vous êtes peut-être zèbre, surdoué. Passez le test à 49 euros pour avoir la réponse. Je précise que cela n'est pas une blague. Selon le cas, vous pourrez ensuite être diagnostiqué HPI, soit haut potentiel intellectuel, ou HPE, à savoir haut potentiel émotionnel. Cela vous donnera le droit de rejoindre une formation, suivre un coaching ou obtenir un suivi par un psychologue selon le site sur lequel vous vous trouvez. Autrement dit, vous pourrez dépenser encore plus d'argent pour apprendre à vivre avec ce trouble. Et n'imaginez pas un instant prendre directement rendez-vous pour avoir une discussion directe avec un professionnel. Sur l'un des sites rencontrés, sans mention légale ni condition générale de vente, il est bien précisé que le professionnel n'ayant que très peu de disponibilité, vous ne pourrez lui parler qu'à condition d'avoir passé le test de dépistage en ligne au préalable. Il faut donc passer le test à 49 euros avant de prendre contact avec le monsieur. Et cette technique se base aussi sur un biais cognitif, le biais d'engagement. Lorsque l'internaute s'engage dans une action, et en particulier financièrement, il a envie de la poursuivre jusqu'au bout, même s'il se rend compte que c'est stupide. Ainsi, après ce test, il aura plus envie que jamais d'avoir un rendez-vous, puis un suivi, et ainsi de suite. Le vocabulaire utilisé sur les différents supports est aussi très intéressant. Je vous ai dit qu'on tombait plus facilement sous le coup de l'effet Barnum lorsque la description est avantageuse. Et elle l'est, puisqu'on parle de surdoué, de haut potentiel et de mal-être, sans définir ce dernier ou en utilisant des termes relativement neutres tels que singularité, différence, mise à l'écart. Or, l'une des raisons pour lesquelles la douance et le trouble du spectre autistique sont parfois confondus, en particulier dans l'enfance, c'est qu'ils partagent des caractéristiques communes, qui ne sont ni flatteuses, ni faciles à gérer pour l'entourage. Troubles cognitifs, difficultés sociales, problèmes de scolarisation, etc. Mais tout cela n'existe pas ou est fortement atténué dans l'univers de la douance en ligne. Cet exemple était très parlant, car il représente tout ce que nous détestons en copywriting et inbound marketing malsain. Pour être un bon copywriter éthique, vous devrez être capable de déceler les communications saines de celles qui ne sont que manipulation. J'espère n'avoir heurté personne avec ce podcast. J'ai tout à fait conscience qu'il peut mettre mal à l'aise certaines personnes qui se sont laissées prendre. Je crois que nous nous sommes tous posé la question à un moment ou à un autre. Suis-je au potentiel ? Et vous l'aurez compris, il n'y a aucune honte à cela. C'est justement tout cet univers et ce travail de manipulation de A à Z dans un écosystème conduit par un inbound marketing affûté qui nous met tous dans cet état de doute. Je suis certaine que ce sujet ne vous laissera pas indifférent, alors n'hésitez pas à commenter pour ouvrir le débat. Je remercie Anne Bakers avec qui j'ai co-écrit le script de ce podcast et j'ajoute un article sur le sujet dans la description. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, Tata.